Soft Power, le club de la presse numérique, Frédéric Martel.
20h12 en direct, le club de la presse numérique. On parle ce soir de Fortnite. Fortnite, si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est pas grave. Je ne le savais pas moi-même il y a quelques jours. C'est un jeu vidéo qui séduit des millions de gamers. Ça fait rire tout le monde dans le studio. Il rit, mais il ne savait pas non plus ce que c'était il y a quelques temps. Bref, c'est gratuit. Interrogez vos enfants ou vos petits-enfants. Ils connaissent Fortnite. On va donc décrypter ce succès qui permet de comprendre également certaines évolutions du jeu vidéo et ses nouveaux modèles économiques. Et nous sommes pour en parler avec Nicolas Princen, ancien conseiller du président de la République Nicolas Sarkozy et fondateur de la start-up Gloz, et Emmanuel Paquette de L'Express. Nicolas Princen, Fortnite, il s'est passé quelque chose.
Je crois qu'il s'est passé quelque chose dans les smartphones d'énormément d'adolescents et donc dans énormément de familles au mois de février-mars de l'an dernier. De cette année d'ailleurs, pardon, 2018, c'est l'arrivée d'une application sur les smartphones qui s'appelle Fortnite et qui reprend sous format d'application mobile un jeu vidéo qui avait commencé déjà à exploser en termes d'audience et de revenus 8 mois plus tôt sur les consoles de jeux. Et ce que ça a signifié, c'est l'arrivée du premier jeu qui en vérité est 100% cross-platform, comme on dit, c'est-à-dire qu'il existe dans les trois univers du jeu vidéo que sont le PC et l'ordinateur, les consoles de jeux et les smartphones. Et c'est le même jeu sur les trois. C'est un jeu de shoot 'em up où on choisit un personnage qu'on habille et qui va sur un territoire confronté 100 autres personnes, donc 100 personnes, comme dans le film Battle Royale. Et il a pour charge d'éliminer ces autres personnes avec des armes qu'il ramasse sur le sol dans un décor assez joli, assez punk rock.
Alors Fortnite, c'est un jeu vidéo donc qui compterait aujourd'hui 150 millions de joueurs dans le monde et générerait déjà des revenus supérieurs à 200 millions de dollars par mois. Il explose, vous l'avez dit, depuis quelques mois avec la sortie de son mode Battle Royale. C'est un mode de jeu où vous incarnez un personnage, vous l'avez dit, qui doit être le dernier survivant d'un champ de bataille dont la taille se réduit au fur et à mesure que la partie avance, que le nombre de joueurs sur le terrain donc diminue, passant de 100 à finalement 1 en une quinzaine de minutes. Emmanuel Paquette, phénomène, quels sont les ressorts du succès de ce jeu ?
L'un des premiers, c'est que déjà, c'est un jeu qui est gratuit, ce qu'on appelle un jeu free-to-play, hein, c'est-à-dire qu'on peut l'installer, jouer gratuitement, et on n'a aucune somme d'argent à dépenser, si ce n'est, si à un moment donné, on veut personnaliser son personnage, lui acheter des vêtements, ce qu'on appelle des skins, par exemple, faire changer de visage.
À ce moment-là, donc on dépense, c'est le modèle économique.
Voilà, on dépense des euros pour acheter ce qu'on appelle une monnaie virtuelle qui s'appelle le V-Bucks. Et avec le V-Bucks, eh ben, on peut s'acheter différents éléments à l'intérieur du jeu. Alors ça, effectivement, ça peut se faire qu'avec l'aide d'un parent qui est d'accord pour donner son numéro de carte bancaire, évidemment. Je connais par exemple un petit Elliot de 12 ans qui a tanné son père pour pouvoir essayer d'acheter des éléments du jeu, mais après ça demande effectivement beaucoup d'heures d'entraînement pour pas se faire tuer au bout de quelques secondes, parce que l'autre élément de ce jeu qui est un petit peu disons addictif, c'est que même quand on est tué très rapidement, ce qui a été mon cas, j'ai pas survécu très longtemps, le tueur, on voit à travers les yeux de la personne qui vous a tué,
on devient un peu ce tueur,
on voit le reste de sa quête en fonction des autres.
Et quand il est tué lui-même,
ça remonte au tueur qui vient de l'annihiler, le shooter, et puis on peut continuer de vivre jusqu'à la fin de la quête au travers des yeux des différents tueurs.
Nicolas Princen.
Ce qui est intéressant, c'est que, alors je ne veux pas faire trop peur à notre audience, c'est pas un jeu d'une extraordinaire violence, c'est plutôt très ludique,
on
avec un univers très coloré. Oui, c'est ça, on se fait tuer gentiment par rapport à d'autres jeux. Il est assez clair, il est assez festif quand on tue quelqu'un.
C'est des images pas réalistes pour le coup.
Pas du tout réaliste. Je pense que là n'est pas le problème. Le problème, c'est plutôt qu'il est extrêmement addictif et que les jeunes y jouent énormément. Il faut savoir qu'il y a plus de 37% des joueurs de Fortnite qui disent jouer plus de 10 heures par semaine. C'est-à-dire
et en ce moment-là, au moment où on se parle, il y a 400 000 personnes qui jouent. 400 000.
Absolument. Ouais. Mais ce qui est intéressant, ce que disait Emmanuel également, c'est que représenter est aussi important que jouer. C'est-à-dire que quand les jeunes jouent à Fortnite, ils se regardent énormément les uns les autres. Ce qu'ils achètent, ce sont des vêtements, ce sont aussi des danses qui permettent à leur personnage de faire des danses au milieu du jeu comme ça et de se montrer rigolo auprès des autres, éventuellement les divertir. Et puis, en effet, quand on a tué un concurrent, on prend sa place, on prend sa vue. Et finalement, il y a tout un univers qui s'est construit autour du Fortnite qui va bien au-delà du jeu, qui ressemble plutôt à un univers de sport ou de médias qui génère une extraordinaire audience sur des plateformes tierces comme Twitch, la plateforme de vidéo de ceux qui jouent aux jeux vidéo, et puis YouTube, évidemment, où énormément de parties de Fortnite sont diffusées, puisque les jeunes s'enregistrent jouant à Fortnite, et ensuite diffusent leurs performances sur YouTube, ce qui génère d'ailleurs des phénomènes de starisation incroyables. Le numéro 1 mondial, ou celui qui est considéré comme le plus spectaculaire, Ninja s'appelle-t-il, est un jeune homme de 27 ans de la banlieue de Chicago. Ninja gagne des centaines de milliers de dollars tous les mois, parce qu'il est suivi par des centaines de milliers de personnes à chaque fois qu'il allume son jeu, sachant qu'il le fait entre 2 et 3 heures par jour.
En France, on a Gotage, hein, qui est le premier dans la catégorie, Emmanuel Paquette.
Oui, parce que c'est vrai que ce que dit Nicolas est assez juste, c'est que ça devient en fait une forme de réseau social aussi en tant que tel, puisqu'on voit que les joueurs apprennent d'autres joueurs et surtout peuvent collaborer entre eux pour essayer d'aboutir à la quête sans se faire tuer. Donc on voit beaucoup de collaborations avec des micros entre des groupes de joueurs qui se rencontrent. Il y a d'ailleurs une petite étude sur le fait réalisée par l'université de Stanford qui dit « Parents, ne vous inquiétez pas, le jeu peut apporter certains éléments importants à vos enfants, notamment collaborer pour atteindre un but. » Et ça, ça peut servir après dans les études d'un enfant.
Mais vous qui êtes père, vous y croyez?
Pas du tout, mais j'ai lu l'étude de Stanford. Si. Et non, mais je pense qu'effectivement, dans l'esprit collaboratif, où chacun on assigne une tâche particulière, puisque on n'est pas obligé que de tuer hein, dans Fortnite, on peut aussi construire.
Des maisons,
certains sont spécialisés, tuer. Voilà, pour après tuer effectivement. Mais donc certains sont plutôt des constructeurs, donc plutôt des tueurs. Donc chacun peut avoir des rôles qui lui sont assignés pour collaborer et être le plus efficace dans le jeu.
Nicolas Prinsen.
Oui, je crois que la raison pour laquelle on parle de Fortnite ce soir, c'est que ça n'est pas qu'un jeu. Et je veux bien que les gens comprennent, qui nous écoutent, qu'il y a deux phénomènes qui sont en train de réaliser Fortnite, qui était totalement inattendu. C'est que premièrement, en effet, comme disait Emmanuel, Fortnite est en train de devenir le réseau social des jeunes, notamment garçons. C'est-à-dire qu'ils passent infiniment plus de temps là-dessus que sur les autres plateformes sociales comme Instagram ou Snapchat ou Facebook. Mais surtout, ils ont une interaction ou une façon de jouer extraordinairement sociale. En effet, ils sont connectés avec des micros et des oreillettes. Ils se parlent, ils jouent, ils s'amusent énormément. Moi, personnellement, quand j'entends mon beau-fils qui joue, j'ai plutôt l'impression qu'il s'amuse. C'est pas très violent, c'est très ludique. Il rigole tout le temps, en gros. Et finalement, ça devient le réseau social, la plateforme d'interaction. Non seulement des amis qu'on connaît, mais aussi on découvre de nouvelles personnes sur Fortnite. Moi, je connais un garçon de 13 ans, celui-là, qui, depuis 4 ans, joue avec un ami à lui. Ils sont super copains. Ils se sont jamais rencontrés dans la vie. Pourtant, il me le cite comme un de ses meilleurs copains. Et puis, la deuxième promesse totalement inattendue que réalise ce jeu, c'est celle de la fusion entre le monde virtuel et le monde réel. C'est-à-dire que là où on s'attendait à ce que ce soit des plateformes comme Second Life il y a 10 ans, ou même Pokémon Go, qui réalise l'espèce de fusion entre monde réel et monde virtuel, bah quand on voit la réalité de la vie d'un adolescent aujourd'hui, son monde virtuel, c'est Fortnite, c'est son existence en tant que personnage sur Fortnite, et ça se traduit directement dans le monde réel, puisqu'il y trouve des vrais amis qu'il considère comme des vrais amis, même quand il ne les a pas rencontrés.
Emmanuel Paquette.
Oui, effectivement, c'est ce qui fait la puissance du jeu et sa valorisation aussi, de fait, puisque, comme vous le disiez, Frédéric, les chiffres qui circulent disent que ce seul jeu, aujourd'hui, a fait plus d'un milliard de chiffre d'affaires. On est plutôt sur 200, effectivement, à 300 millions de dollars chaque
On dit
mois.
Même que l'action de groupe Activision, qui édite Call of Duty ou Take-Two, l'éditeur de Grand Theft Auto, sont affectés par ce succès des free-to-play.
Alors, je pense plus aujourd'hui, parce que notamment Take-Two vient de sortir un énorme jeu qui se vend très très bien actuellement, qui s'appelle Red Dead Redemption numéro 2, enfin le deuxième volet, qui était très attendu. Donc de ce point de vue-là, non, je suis pas certain que ça affecte directement le business de ces grands éditeurs. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, le principal intérêt pour un acteur chinois comme Tencent, qui est un mastodonte dans les jeux vidéo et qui a pris 40% de l'éditeur Epic Games qui a créé Fortnite, c'est de créer un jeu qui, si possible, ne meurt jamais, puisqu'à chaque fois on répète une partie. Parce qu'aujourd'hui, le problème des jeux free-to-play, c'est que au bout d'un moment, les gens se lassent et le quittent. Et à ce moment-là, on a acheté un jeu on est devenu actionnaire d'un jeu qui avait à un moment donné un espèce de pic d'audience, et le pic d'audience s'affaisse. Là, avec le système de collaboration et de réseau social, le fait est que ce jeu-là peut avoir une existence très très longue, puisqu'on y retrouve ses amis. Donc il y a un effet en fait de réseau qui fait que c'est un jeu dont la pérennité peut être bien plus importante que les autres.
Nicolas Prinsen.
Oui, c'est vrai, parce que les jeux vidéo sont le terrain d'une grande bataille entre deux générations d'éditeurs. La première génération d'éditeurs sont ceux qui ont fait des jeux pour les PC et pour les consoles de jeux. C'était des jeux longs, très engageants, qui racontent des vraies histoires,
payant,
tout à fait.
Très cher.
Très cher, qui coûte 60, 70 euros. Et puis, qui ressemble plus à l'industrie du cinéma, où on va travailler 3 ans pour faire un jeu.
Un blockbuster aussi, ouais.
Et puis une deuxième génération d'éditeurs qui sont arrivés grâce à l'avènement du smartphone, qui sont des éditeurs qui faisaient plus du casual gaming, des jeux auxquels on va jouer un petit peu. Les rois de ça, c'est Candy Crush, typiquement, auquel tout le monde a un petit peu joué. Vraiment le jeu pour jouer 5, 10, 15 minutes par jour dans le métro. Et cette bataille entre ces deux générations d'éditeurs, je trouve que Fortnite la résout en quelque sorte, parce que Epic est un petit peu à l'intersection des deux. C'est un gros éditeur qui a déjà fait des gros jeux, mais qui a trouvé un moyen d'exister sur les smartphones, de faire un jeu qui, pour les très bons joueurs, une partie, ça va durer une demi-heure, mais pour un débutant, ça va durer 5 minutes. Il aurait eu un coup d'adrénaline incroyable à se faire tuer ou à réussir à tuer. Et ça marie extrêmement bien ces deux générations de jeux et de joueurs.
Emmanuel Paquette, c'est aussi un moyen de contourner la distribution de Android et faire d'une certaine manière un pied de nez à Google, la manière dont il est distribué le jeu ?
Oui, alors parce que faut bien comprendre qu'aujourd'hui, quand une application est distribuée via un App Store, que ce soit l'Android Store de Google ou l'App Store d'Apple, après toutes les transactions qui sont faites à l'intérieur du jeu, une commission est prélevée par Google.
30%, ouais.
Voilà, et l'autre par Apple. Donc l'idée de Fortnite, c'était de dire, nous, on va arrêter de payer des commissions.
Donc l'application n'est pas disponible sur Google Play,
c'est ça ? Voilà, c'est ça, et on va la distribuer, nous, en direct. Puisqu'on a une marque qui est suffisamment forte et les gens connaissent suffisamment le jeu pour aller directement le télécharger sans passer par un store. Alors c'est un pari risqué parce que ça veut dire qu'on considère que le nom du jeu est tellement puissant qu'on n'a plus besoin, on peut se passer des boutiques de distribution. Mais visiblement c'est aussi plutôt payant.
C'est 100% des recettes, voilà, qui arrivent aux développeurs.
Alors en revanche, ça pose un deuxième problème qui est les fausses applications Fortnite.
Donc des arnaques.
Des arnaques, voilà, qui peuvent être installées parce qu'aujourd'hui c'est contrôlé, en tout cas chez Apple, un peu moins chez Google. Mais une application pour être distribuée sur les boutiques en ligne doit passer en fait par
les tests, une batterie validée, test, ouais.
Exactement. Et il peut y avoir des faux jeux qui viennent simplement pomper vos données personnelles sur votre téléphone avec une fausse application Fortnite, par exemple, sur Android.
Nicolas Prinsen.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire qu'une application, c'est-à-dire une application quelle que soit ici, un jeu, soit suffisamment forte en tant que marque pour dire finalement on va court-circuiter Google et on ne va pas se distribuer directement sur Android. C'est tout à fait extraordinaire et je pense que ça en dit beaucoup sur où se situe la valeur aujourd'hui dans l'économie numérique auprès de cette nouvelle génération, c'est-à-dire vraiment les adolescents d'aujourd'hui. Donc l'adolescent d'aujourd'hui, visiblement, Fortnite prouve que Fortnite est plus fort qu'un Google, premièrement. Et deuxièmement, comme vous citiez au départ le modèle économique de Fortnite, un adolescent aujourd'hui va vous demander votre carte bancaire pour acheter, attention, un vêtement virtuel pour son personnage virtuel ou une danse, enseigner une danse à un de ses personnages pour exister sur cette plateforme sociale qu'est Fortnite.
Faire le cacou, comme on dit dans le midi.
Absolument, c'est ça. Et donc, à Noël, plutôt que vous demander un objet physique, il va vous demander ça. Et je trouve ça absolument remarquable. Il y a une grande marque de téléphonie, Samsung, pour ne pas la nommer, qui a lancé une campagne où elle offrait aux joueurs de Fortnite une skin, c'est-à-dire un vêtement spécifique, spécifique dans Fortnite pour l'achat du nouveau Samsung dont le prix était autour de 1000 euros. Je ne sais pas si vous imaginez. Et donc, il y a des hordes d'adolescents qui ont absolument tout fait pour essayer de pirater le système, parce que leurs parents ne sont pas prêts à leur payer un Samsung à 1000 euros, pour essayer de pirater le système. Et donc, des tonnes de vidéos sur YouTube qui expliquent comment pirater le système. Des adolescents qui vont dans les boutiques de téléphonie mobile pour essayer de pirater le système et d'obtenir la skin. Donc, la skin a plus de valeur que le smartphone. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est un retournement assez intéressant qu'on voit avec Fortnite.
Vous comprenez quelque chose
à ce qu'on dit ce soir ? Je comprends tout à fait, parce que évidemment, j'ai des petits-neveux, moi, et je vois très bien à quoi ça correspond. Mais
chacun parle de ses enfants, ses petits-enfants, ses petits-neveux. Il n'y a que le technicien de cette émission qui joue à Fortnite, j'ai l'impression, vu que lui, il comprend ce qu'on dit.
Mais vous pointez quand même quelque chose qui est assez intéressant, et vous l'avez dit, si Samsung en vient à utiliser ce type d'argumentaire, on est peut-être arrivé aussi à un nouveau paradigme. Est-ce que Fortnite ne pourrait pas être le signe d'un nouveau paradigme où finalement, on parle de ces géants qui manipulent du contenu, avec un exemple de contenu qui commence à dépasser le géant, à savoir Google. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard qu'on ait comme ça des marques qui soient presque plus fortes que les tuyaux, ce qui pour le moment n'est pas vraiment le cas ?
Nicolas Prinsen, cette question.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, Fortnite reste totalement dépendant des des appareils qui le distribuent et avec lequel il est joué. Mais c'est très fort d'être sur tous les appareils puisque ça ne les rend pas dépendants d'une seule d'entre elles. En revanche, ça crée un monde. Et ce monde, il est relativement fermé. Pour y accéder, bah, vous voyez, on n'en fait pas partie autour de cette table nécessairement.
Pas on est marginaux.
Mais il se passe toute une vie là-dedans.
Dès ce soir, ce sera réglé.
Sur laquelle les grandes plateformes n'ont pas beaucoup de pouvoir. Reste à voir si ça va durer dans le temps, ce qui est la grande problématique des jeux vidéo. C'est pas du tout sûr que ça va durer. Mais ça me paraît intéressant de voir une tentative qui, pour le coup, est vraiment inattendue. C'est-à-dire, c'était pas leur but premier que d'être une plateforme sociale, ça l'est devenu.
Emmanuel Paquette, pour terminer.
Oui, juste pour rappeler quelque chose qui peut parler aux gens, c'est il y a très longtemps, Coca-Cola a voulu sortir des Leclerc pour essayer de se distribuer en direct. Très vite, Coca-Cola a dû revenir dans les Leclerc parce que les volumes n'arrivaient pas à être à s'écouler. Alors, on verra si Fortnite arrive à bypasser longtemps comme ça, effectivement.
À contourner. Store,
voilà, à faire ce que Coca n'a pas su faire.
Exactement.
Z-Event le week-end prochain des 9 et 11 novembre, 38 streamers, 50 heures de live, ce sera un événement. L'an passé c'était la première édition, plus de 450 000 euros avaient été levés, notamment pour des causes, en l'occurrence pour Médecins Sans Frontières. C'est une information liée à ces jeux vidéo. On en reste là pour ce soir, merci infiniment à tous les deux, Emmanuel Paquette de L'Express, Nicolas Prinsen, fondateur de la start-up Glows. On se quitte avec le nouvel album de Black Eyed Peas et dont on a parlé en début d'émission, Vibration, c'est le titre sur France Culture. Dimanche prochain, je recevrai le philosophe nord-américain Anthony Appiah après les élections mid-term aux États-Unis. Et puis encore un mot pour vous dire que ce soir, après Carbone 14, le magazine de l'archéologie de Vincent Charpentier, à 21h, ne manquez pas sur France Culture du théâtre avec le drame Torquemada de Victor Hugo, une création originale en clôture de notre week-end spécial Victor Hugo, notre contemporain, en partenariat avec France 2 et France 5. Ce soir également, à 22h35 sur France 5, le documentaire Victor Hugo, un siècle en révolution. Et puis lundi et mardi sur France 2, 4 épisodes d'une mini-série sur Victor Hugo, également Victor Hugo, ennemi d'État. Voilà, vous savez tout. Pour les Hugoliens qui sont nombreux en France et à France Culture, c'est à nous ça, Hugo, hein, on ne peut pas nous l'enlever. Partageons-le, mais juste un petit peu. Victor Hugo, notre contemporain, je dirais, capital. Bonne soirée.